Alors, pendant que nos musiciens vont se retirer, j'aimerais que vous puissiez tourner dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1. Et ce matin, nous allons regarder le passage qui débute au verset 35 et qui se termine ce matin au verset 42. Alors, Jean 1, versets 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Et Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Que Dieu bénisse sa sainte parole. Dans ce passage-là, frères et sœurs, on voit Jean-Baptiste avec deux de ses disciples. Et ce sont des personnes qui ont déjà entendu, qui ont reçu le témoignage de Jean et qui se sont, par le fait même, attachés à Jean. Et un peu plus loin dans cet évangile, ce que nous allons connaître, ce sont d'autres disciples de Jean qui ne sont pas mentionnés jusqu'ici. Je parle bien de Jean-Baptiste. Ces disciples-là étaient restés liés à Jean-Baptiste pour le moment, en faisant de lui leur leader. Et ils n'avaient pas encore discerné Jésus, le Sauveur, le Christ. Et ces disciples de Jean-Baptiste ont pour la plupart fini par connaître ou reconnaître Jésus comme étant leur Sauveur. Et si ce n'est que durant son ministère ici même sur la terre, probablement à la Pentecôte ou peut-être même après, comme on peut voir dans Acte 19, les versets 1 et 4. Hein? Si vous voulez tourner, ou je pense que je l'ai à l'écran, Acte 19, versets 1 et 4. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et ayant encore rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? » Quand vous avez cru? Et ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alors, ces disciples-là, évidemment, dans le ministère, on peut dire un peu plus après Jean-Baptiste, dans le ministère de Paul, avaient simplement entendu parler du baptême de repentance de Paul. Et ils n'avaient pas entendu de l'Esprit Saint. Et évidemment, ils se sont fait baptiser comme nous, on se fait baptiser aujourd'hui. Il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas deux baptêmes, il n'y en a seulement qu'un seul, je pense que je le disais assez souvent. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous recevons en même temps l'Esprit Saint.
Donc, on n'a pas besoin d'être rebaptisé. Mais avant d'aller plus loin, ce matin, j'aimerais qu'on puisse se retirer dans un temps de prière et prier notre Papa du ciel. Puis, en plus, on va continuer verset par verset. Alors, Père éternel, ce matin, nous sommes dans un contexte que je pourrais appeler d'évangélisation, où André amène Pierre à Christ. Et après ça, on va voir d'autres disciples aller à la rencontre de Jésus. Et ce matin, je te prie, Père, que tu puisses ouvrir nos cœurs, afin qu'on puisse être ouverts, justement, à annoncer la bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est des fois plus prompt à annoncer des mauvaises nouvelles, mais Seigneur, que dans nos cœurs, à nous, tes enfants, on puisse être plus prompt à annoncer cette bonne nouvelle-là. Il est encore temps. Il est encore temps de parler de toi, Seigneur, de juste simplement parler de toi. Et on sait que tu te charges du reste, Seigneur. Alors, Père, ouvre nos cœurs. Ouvre notre esprit. Et qu'on puisse être enseigné par toi ce matin. Que moi, je ne sois seulement que l'outil dans tes mains. Alors, Père, bénis-nous et sois avec nous, Seigneur, ce matin pour écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Les âmes perdues en recherche. Moi, je crois encore aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont à la recherche. Mais à la recherche de quoi? Souvent, c'est toutes sortes de choses qui n'ont pas vraiment la vérité en elles. Et oui, il y a des gens qui cherchent vraiment une solution peut-être à leur problème ou une compréhension, une meilleure compréhension à leur vie. Mais ici, on a des âmes qui recherchent le Messie. Parce que dans cette période de temps-là, le Messie était quelqu'un qui devait venir, un sauveur. Mais pas un sauveur tel que Jésus était, plutôt un conquérant. Alors, verset 35 et verset 36, on se trouve le lendemain. C'est le troisième jour mentionné dans ce chapitre-là. Et là, Jean-Baptiste se tourne là, se trouve là, c'est-à-dire avec deux de ses disciples. Et ces hommes-là avaient déjà entendu Jean-Baptiste prêcher, comme j'ai dit tantôt. Ils croyaient dans le message que Jean leur apportait, mais ils n'avaient pas encore rencontré le Seigneur Jésus. Et à partir de là, Jean-Baptiste va rendre témoignage publiquement du Seigneur Jésus. Un témoignage qui est public, un témoignage répandu à tout le monde. La veille, Jean avait parlé de Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Hein? Il avait parlé aussi de son œuvre, hein? Celui qui ôte le péché du monde. Mais à présent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attirer l'attention de ceux qui l'écoutent seulement sur la personne du Seigneur Jésus. Et son message est bref. Son message, on pourrait l'appeler désintéressé, simple. Et surtout, comme je viens de dire, centré uniquement sur notre Sauveur. Et rappelons-nous ceci, frères et sœurs. Lorsque nous parlons du salut, lorsque nous voulons prêcher cette bonne nouvelle-là du salut à une personne qui ne connaît pas personnellement le Seigneur Jésus, rappelons-nous ceci, que nos paroles soient centrées seulement sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus et non sur la comparaison de religion, ce qu'on fait pas, mon père est meilleur que le tien, en tout cas plus fort que le tien. C'est des fois, on rentre dans des sujets là, qui ne sont pas vraiment intéressants et qui vont provoquer souvent des disputes ou des contrariétés. Parlons seulement que notre message soit centré sur la personne du Seigneur Jésus. Au verset 37, on voit deux disciples qui entendent Jean prononcer ces paroles et à ce moment-là, ils décident de suivre Jésus. Grâce à la prédication fidèle de Jean-Baptiste, ça lui a fait perdre deux disciples. Et plus tard, probablement pas mal plus. Mais au lieu d'être irrité par ça, Jean-Baptiste était heureux de les voir suivre le Seigneur Jésus. Et c'est la même chose pour nous. Lorsque nous, on devrait se montrer plus soucieux de voir nos amis à qui on a prêché, à qui on a parlé de l'Évangile, suivre le Seigneur Jésus, que de les voir entretenir une autre opinion de nous-mêmes. Hein? Souvent, on se glorifie pour pas grand-chose. Non, on doit être content de voir quelqu'un à qui on a parlé de Jésus, le suivre, et c'est ça qui est important. Beaucoup de personnes ont entendu, il y en a peu qui suivent. Et au verset 38, Jésus va se retourner. Et on pourrait dire que le Sauveur s'intéresse toujours à ceux qui veulent le suivre. Jésus démontre son intérêt en se tournant vers les deux disciples et en leur demandant « Que cherchez-vous? » Qu'est-ce que vous cherchez? Et leur réponse est « Rabbi, où demeures-tu? » Et cette réponse-là, elle indique que ces disciples-là souhaitaient demeurer avec le Seigneur et apprendre à mieux le connaître. Et n'est-ce pas ce que nous devrions aussi désirer dans notre cœur? Chercher à connaître Dieu de plus en plus, à chaque jour, ça devrait être notre désir. Apprendre à mieux le connaître, à vouloir demeurer. Jésus dit dans Jean 17, « Demeurez en moi et je demeurerai en lui, en vous, c'est-à-dire. » Seulement, le fait de rencontrer, ce n'était pas suffisant pour les deux disciples. Ils voulaient être en communion avec lui. Ils voulaient demeurer là où Jésus demeurait. Et juste afin d'expliquer ici le mot « rabbi », qui est un mot hébreu, ça veut dire « maître ». Ça veut dire « mon grand » dans une façon littérale. Donc, déjà, ces disciples-là reconnaissent, c'est Jésus comme étant le grand maître. Au verset 39, merci, ma fille, elle me connaît. Au verset 39, Jésus leur dit, « Venez et voyez. » Une personne qui est animée par le désir réel de mieux connaître le Seigneur Jésus, ben si c'est ton désir dans ton cœur, Jésus ne te refusera pas ça. Si tu es sincère ce matin, et puis tu désires connaître le Seigneur Jésus, t'en as entendu parler, mais t'as pas de relation avec lui, mais le Seigneur te repoussera pas. Et pas peur de ça. Les hommes, des fois, repoussent. Mais pas Jésus. Jésus va donc inviter ces deux hommes-là à se rendre à l'endroit où lui-même il logeait. Et on peut voir par l'image, je sais pas si tu l'as, mais c'est le genre de bâtiment qu'il y avait dans ce temps-là. Puis je ne sais pas si c'était aussi beau que ça. Mais en tout cas, il ne semble pas que ce soit une maison de luxe. Et, comme je vous dis, maison bien modeste, à comparer à nos maisons modernes d'aujourd'hui. Et les deux disciples sont allés et ont vu Jésus, et ont vu où Jésus demeurait. Et à partir de ce moment-là, ils ont resté auprès de lui. Ils ne sont pas allés ailleurs. Ils ont resté auprès de Jésus. La parole dit, c'était environ la 10e heure. Bon, aujourd'hui, ça pourrait être 10 heures du matin ou 10 heures du soir, mais on n'était pas dans ce temps-là sous le système romain. On était dans un système qui était plutôt juif et ça représentait 4 heures de l'après-midi. Donc, ces hommes n'avaient jamais reçu un tel honneur parce que le fait de passer la nuit chez Jésus, le Sauveur, le Messie, c'était quelque chose. Imaginez-vous, c'est Jésus, c'est le Créateur de l'univers. Puis on s'en va coucher là, là. Hein, c'est lui qui a tout créé. Et ce qui est probable ici, c'est qu'il fut probablement parmi les premiers de la nation juive à reconnaître le Messie, à part Jean-Baptiste. Là. Donc, on arrive à un deuxième point qui dit ceci, quels étaient les premiers disciples? Et à partir du verset 40, on peut voir André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux. Ça veut dire qu'il y en a un autre sous-entendu qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. L'un des deux disciples était évidemment André. André, il n'était pas connu comme son frère Simon-Pierre. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il fut le premier des deux à rencontrer Jésus. Le nom de l'un de l'autre disciple sous-entendu, selon certains commentateurs, on parlerait de Jean lui-même, l'auteur de l'Évangile. Si vous remarquez, puis comme je l'ai dit au début, lorsque j'ai commencé cette série-là sur Jean, Jean ne veut pas se montrer, il ne veut pas s'identifier plus qu'il le faut dans cet Évangile. Mais par des termes comme celui que Jésus aimait ou ces choses-là, on peut reconnaître que souvent, lorsque la personne est sous-entendue, c'est l'apôtre Jean. Bon, c'est des commentateurs, certains commentateurs qui disent ça, la majorité, et on met ça sur l'humilité de Jean qui l'empêche de mentionner son propre nom. La vraie vérité, on va la voir au ciel. Mais aujourd'hui, ça ne change rien dans le plan du salut du Seigneur, que ce soit Jean ou un autre. Au verset 41, « Ce fut lui, André, autrement dit, qui a rencontré le premier son frère, Simon. Et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et là, j'aimerais qu'on fasse un pas en arrière. Quand on a fait la rencontre de Jésus. Pour ceux qui sont sauvés ici ce matin, qui connaissent Jésus d'une façon personnelle, qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur de leur vie, lorsqu'on a fait cette rencontre-là avec le Seigneur Jésus, notre désir, c'était quoi? Ah oui! Le premier membre de la famille qu'on voit, « Hey, viens, cite-toi, j'ai quelque chose à te dire. » On veut partager ce qu'on a trouvé. C'est dommage que plus les années avancent, des fois, le zèle est moins présent. Pas un reproche, une constatation que l'on peut changer immédiatement si on veut. Le salut, c'est bien trop merveilleux pour le garder juste pour soi. En faisons pas comme celui qui a enterré ce que le maître lui avait demandé de garder pour éviter qu'il se fasse voler ou bon non, pour quoi que ce soit, faire un mauvais placement. Aussi, André s'est rendu en hâte. Il a couru auprès de son frère Simon avec la bonne nouvelle. Nous avons trouvé le Messie. Quelle annonce stupéfiante. On a trouvé le Messie. Imaginez-vous, ça fait 4000 ans que les hommes attendaient le Messie promis, loin de Dieu. Hein, on chante ça dans un de nos cantiques. Depuis plus de 4000 ans. Maintenant, là, Simon entendait de la bouche de son frère André cette bonne nouvelle-là que le Messie était enfin arrivé. Et vraiment, les deux vivaient des instants uniques, un tournant historique. Nous, peut-être, c'est pas historique, mais c'est un mouvement, c'est quelque chose, un tournant, c'est-à-dire unique dans notre vie. On fait un 180 et on se dirige vers une autre direction, vers le ciel, au lieu de vers l'enfer. Le message d'André, pourtant, il était simple. Il y avait cinq mots. Nous avons trouvé le Messie. Qui de nous ce matin peut dire « J'ai trouvé le Messie » ? Il y en a plusieurs. Hein? Je ne demande pas de lever la main, mais quand même, je sais qu'il y en a plusieurs. Mais pour celui peut-être qui ne comprend pas justement ou qui aimerait connaître justement le Messie, bien, il y a des personnes ici qui peuvent vous aider à faire un pas de chemin avec vous pour vous diriger dans le bon sens. Et c'est Dieu qui va faire l'ouvrage dans vos cœurs. C'est Dieu qui change les cœurs. Dieu, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a utilisé ces mots pour gagner Pierre. André dit, nous avons trouvé le Messie. Dieu utilise ces mots pour que le cœur de Pierre soit changé. Et ça nous enseigne que on n'a pas besoin d'être des grands prédicateurs ni des orateurs exceptionnels pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Hein? Il faut seulement parler aux hommes, aux dames du Sauveur avec des mots qui sont simples. Et comme j'ai dit tantôt, pas de comparaison, pas de ci, de ça. Et Dieu va s'en occuper. Il faut faire confiance en Dieu. Moi, j'ai parlé de l'Évangile à plusieurs personnes. Plusieurs personnes ne sont pas sauvées juste parce que j'ai dit, mais Dieu va faire son œuvre dans chacune de ces personnes-là. Dernier verset, verset 42. Et là, André, ce qu'il fait, c'est qu'il conduit Pierre vers Jésus. On pourrait dire qu'André a conduit son frère Simon au bon endroit. Et auprès de la bonne personne. Il ne l'amène pas dans une synagogue. On pourrait dire pour nous aujourd'hui, il ne l'amène pas à l'église tout de suite. Il ne prêche pas ses propres connaissances. Il ne conduit pas non plus vers soit un rabbin, aujourd'hui on pourrait dire un ancien ou un pasteur. Il le conduit vers Jésus. Il faut retenir ça. Il le conduit vers Jésus. Maintenant, ça se peut que durant ce processus-là, vous ayez à amener la personne peut-être vers votre pasteur, un ancien, une personne dans l'Église. Et là-dedans, là, il n'y a pas de hiérarchie. Là. Tout le monde est égal. Tout le monde qui sont sauvés sont égales. Mais il y en a des fois qui ont plus de... Comment j'appellerais bien ça? Là, de capacité, je dirais, ou de don de vouloir dire les bonnes paroles pour ou conduire la personne dans les bons versets de la parole de Dieu. Peu importe. C'est toujours Dieu qui sauve. Et là, le fait qu'il ne le conduit pas vers l'Église ou quoi que ce soit, mais vers Jésus, ça, c'est toute une action qui est importante. À cause de l'intérêt démontré par André, Simon est devenu plus tard un grand pêcheur d'hommes, c'est-à-dire. Et évidemment, un des principaux apôtres du Seigneur. Simon est devenu plus célèbre que André, son frère. Mais André va certainement partager cette récompense-là qui est promise pour avoir conduit Pierre à Jésus. Mais encore une fois, ici, j'insiste pas sur le fait de récompense ou de ces choses-là, mais oui, le Seigneur a promis ces récompenses-là, puis oui, il faut le dire. Je le fais pas pour les récompenses, mais je le fais pour que une autre personne soit entretenue avec le message de l'Évangile. Vous savez, le Seigneur Jésus connaissait Simon, connaissait Pierre, sans que personne lui parle de Pierre. Mais il n'ignorait pas non plus que Simon était doté d'un caractère instable. Ça, le Seigneur Jésus, là, avant d'être son disciple, là, que nous soyons son disciple, il nous connaît. Il nous connaît de A à Z. Et il sait qu'avec le temps, notre vie va être sanctifiée, que notre personnalité change dans un sens, et que lui, Pierre, deviendrait aussi ferme qu'un roc. Et vous savez, lorsqu'on chante la maison qui est bâtie sur le roc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire bâtie sur du solide. Et ce que Pierre va amener comme message de l'Évangile, c'est solide, et on le voit à travers les actes et les épîtres que Pierre a écrits. Et le nom de Simon va changer en même temps. Ça va être Céphas maintenant. Hein? En araméen, ça veut dire Pierre. Et Pierre est devenu un homme doté d'un caractère fort qu'on appellerait aujourd'hui. Surtout après l'ascension du Seigneur Jésus et la venue du Saint-Esprit. Il a été un vrai leader qu'on appellerait dans le sens chrétien. Pierre, c'était probablement un caractère sanguin, colérique. Mais regardez ce que le Seigneur a fait avec lui. La recherche des âmes perdues conduit toujours à un Christ qui est réceptif. Soyez pas inquiets. Lorsque dans votre cœur, vous avez ce désir-là de conduire des âmes à Christ, Christ est un sauveur réceptif. C'est pour ça qu'on demande de prier pour des gens à qui on a parlé de l'Évangile. Bon, des fois, au début, ils sont rétifs, choqués. Ils veulent peut-être plus vous parler pour une secousse. Ou bon, non, c'est toujours argument par-dessus argument. Mais sachez bien ceci. Christ est à l'écoute, comme je l'ai dit, et c'est lui qui sauve. Tournez dans Jean 6, 37, ou regardez le passage à l'écran. Et ce sont les paroles de Jésus ici, hein? Tous ceux que le Père me donne viennent à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, appuyons-nous sur cette promesse de l'Évangile. Ça ne veut pas dire que la personne va être sauvée. Ça, encore là, il faut prier pour ça. Puis, il ne faut pas désespérer. Je sais qu'on est plusieurs ici qui prient pour nos enfants qui ne sont pas sauvés, ou nos parents, ou... Prions pas avec un esprit défaitiste. Oui, prions que ta volonté soit faite, Dieu. Mais tu le sais, Seigneur, que j'aime ces personnes-là, puis que j'aimerais les voir, eux aussi, au ciel, avec moi. Dieu, c'est un papa. Il comprend ça. Maintenant, c'est à lui de décider. Et là, au ciel, peu importe ce qui arrivera, toute l'âme va être séchée. Mais, désespérons pas, s'il vous plaît, pour tous ceux et celles qu'on aime et qu'on veut voir grandir. Maintenant, prions pour eux. S'il y a un moyen d'être un bon témoignage, faisons-le. Parce qu'il n'y a rien de plus faux aux oreilles de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur de voir un chrétien qui se dit chrétien et qui n'agit pas comme ça. C'est important. C'est important le témoignage. Je conclue avec ceci. Si on regarde les versets 35 à 42 dans leur ensemble, dans la scène entière, cette scène-là se place chronologiquement durant l'appel des disciples Pierre et André, mentionné aussi dans Marc 16. Et là, il y a 16 à 18 pour Pierre et André. Et un peu plus tard, les versets 19 et 20, où on voit Jacques et son frère Jean, l'auteur de l'Évangile, qui sont appelés. Et la scène met l'accent sur la personne de Jésus. Et je veux qu'on comprenne ceci. L'accent sur Jésus. Sur l'attrait que Jésus produit dans le cœur d'une personne qui désire le connaître. Sur le témoignage qui rayonne autour de Jésus. Et là, André partage sa découverte avec son frère Simon. Nous avons trouvé le Messie. Jean 1, 41. Et c'est ça qu'on devrait faire, tout croyant, dans lequel déborde la joie de notre salut. Il peut pas garder pour lui seul ce trésor-là qu'il a trouvé. Non, on peut pas. On peut pas. Maintenant, comment André était-il arrivé à la conclusion que Jésus était le Messie? Bien, Jean-Baptiste, il n'avait pas encore attribué ce titre-là à Jésus. Il avait dit que c'était l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Mais après cela, André a compris que le Messie annoncé par les prophètes, ce ne serait pas simplement un libérateur politique, comme ils attendaient, mais que ce libérateur-là opérerait une libération bien plus grande en ôtant le péché, la culpabilité du péché, ce qu'un homme ordinaire ne peut pas faire. Vous savez, le poids de supporter un péché ou les péchés, c'est difficile. C'est écrasant. On est coupable. Et la Bible dit qu'on est tous coupables. Qu'on est tous des pécheurs. Mais lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, quelle libération! Ah oui, on va continuer à pécher, mais pas autant comme avant, je dirais. Et de plus en plus, on va avoir des victoires sur des péchés qu'on a dans notre vie, jusqu'au jour où on sera amené à la perfection au ciel. Mais le fait d'être libéré, le fait là de ne plus être sous cette condamnation-là de la loi, mais libéré par la grâce du Seigneur. Quelle libération! Et la seule personne qui a pu faire ça, c'est Jésus-Christ. Et cette seule personne-là était Dieu, comme Jean le dit dans son prologue. Et sans qu'aucun des disciples n'ait pu saisir vraiment ces choses-là, ils y voyaient chez eux une intuition qui a été produite par le Saint-Esprit qui les a conduits à s'attacher à Jésus. Et en théologie, on appelle ça l'appel irrésistible. Lorsque le Seigneur, lorsque quelqu'un te parle du Seigneur, et quand toi tu sens que tu ne pourras pas résister à ta vieille vie, à ton vieil homme de pécheur, c'est l'Esprit Saint qui est en train de faire son œuvre. Et on, comme je l'ai dit en théologie, c'est l'appel auquel tu ne peux pas résister. Ces disciples-là n'ont pu résister à l'appel du Seigneur. Et la grande leçon de ce matin, c'est que le salut se transmet, frères et sœurs, de bouche à oreille, simplement. Il faut cesser de penser que c'est nous qui devons convaincre les gens du salut en Jésus-Christ, et se mettre cette pression-là. Tout ce que nous devons faire, c'est d'en parler. Et Dieu se charge du reste. Soyons, par contre, convaincus de la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus est mort pour nous délivrer de nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre espérance éternelle. Veillons sur notre témoignage. Soyons de vrais disciples avec une bonne nouvelle à partager aux gens autour de nous. Amen. Père, que tes paroles soient vivantes en nous et qu'à partir d'aujourd'hui, on puisse être des disciples capables de parler de toi et ensuite voir de nos propres yeux, les miracles se produire dans la vie de ces personnes-là qui vont te recevoir en Christ. Que ton nom soit béni par Jésus. Amen.